Chers amis des cellules, je vous propose pour nos premiers enseignements d'étudier des extraits d'un livre du père Adrien Candiar qui s'intitule « À Philémon, réflexion sur la liberté chrétienne ». C'est un commentaire que le père Candiar a fait de la lettre à Philémon qui est la lettre la plus courte de saint Paul apôtre, qui est basée sur un fait, une histoire d'esclaves échappés, Onésime, que Paul propose à Philémon de reprendre, pas tant comme un esclave que comme un frère. Mais il y a quelque chose de particulier dans la démarche de saint Paul, c'est qu'il va lui proposer de le faire, mais sans le lui imposer. Nous allons aujourd'hui lire un extrait du deuxième chapitre de ce commentaire sur la liberté et le respect de la conscience. Je lis le texte. Jeune étudiant en histoire, avant le choix de la vie religieuse, j'ai eu la chance de passer une année à Rome. Je n'étais pas un étudiant trop occupé, j'avais le temps de longues flâneries à travers les merveilles offertes par la ville. J'avais le temps de rencontrer des visages nouveaux et de lier des amitiés. Parfois des journées entières ne se passaient qu'à cela, voir quelques belles choses, partager un café. Cet immense loisir, paradisiaque quand il ne dure que quelques jours, devenait plus pesant et tirait sur des mois. J'aurais pu faire davantage, bien sûr, mais bientôt je n'y arrivais plus. Comme un estomac qui a perdu à force de jeûner la capacité de digérer des repas substantiels, je n'avais que peu à faire, mais je n'avais plus le temps de rien. Inquiet de cette vie que menaçait une effrayante vacuité, j'imaginais un remède. J'avais découvert l'existence d'une petite église, presque invisible, à quelques mètres de chez moi. On y célébrait la messe tous les matins à 7 heures, il me semble. Il me suffirait, pensais-je, de me lever chaque matin pour aller à cette messe. Ma journée commencerait ainsi à un horaire énergique par un retour à l'essentiel. Nul doute qu'elle y trouverait un rythme renouvelé, plein d'enthousiasme. La solution me paraissait excellente. Seulement pour cela, il fallait me lever tôt. Trouvant l'effort au-dessus de mes forces, je conçus encore un plan machiavélique pour m'y contraindre. De retour chez moi pour des vacances, vous pensez si j'avais bien besoin de repos, j'allais trouver un prêtre qui voulait bien me servir d'accompagnateur et je lui exposais ma solution. Il devait, pensais-je, m'ordonner de me rendre à cette messe. Je me sentirais alors tenu par une forme d'obéissance certainement suffisante pour sortir de mon lit. On est donc face à un étudiant qui fait le constat qu'il n'arrive plus à travailler, que sa vie a pris un pli qui ne convient pas. Il y a un constat, on pourrait dire il y a une lucidité, et qui essaie de trouver les moyens pour y remédier, pour pouvoir retrouver le rythme de travail. Il veut l'ancrer sur un rythme de prière, un rythme de messe à 7 heures le matin pour avoir de l'énergie. On pourrait se dire, mais quelle bonne idée, quel bon moyen il a trouvé là. Et pourtant, en lisant la suite, nous voyons que sa proposition va être fraîchement reçue. Je reprends la lecture. Difficile d'oublier son air consterné devant ma requête. Je ne vais rien t'ordonner du tout. La vie chrétienne, c'est grandir en liberté, pas faire ce qu'on te dit. Si tu veux y aller à cette messe, eh bien vas-y. Et si tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Je reçus ce jour-là ma première leçon de morale chrétienne, dit le père Candiar. La première et en un sens la seule, elle contenait toutes les autres. Du reste, revigoré par cet appel à ma responsabilité, à mon propre choix du bien, plutôt qu'à une obéissance puérile, de ce jour-là je n'ai plus eu aucune difficulté à me lever pour me rendre tous les matins, parfois mal réveillé et habillé en toute hâte, je le confesse, à cette fameuse messe qui m'attendait en bas de mon immeuble. Et je retrouvais bientôt cette vie active et joyeuse qui auparavant s'étiolait peu à peu. Que s'est-il passé? En fait, le père spirituel a refusé de se substituer à la conscience et à la volonté de celui qui l'accompagnait. Celui qui l'accompagnait demandait un ordre auquel obéir, Elle dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie chrétienne, c'est grandir en liberté. Et donc, c'est à toi de décider. Tu décides de faire ou tu décides de ne pas faire. Mais je ne vais pas le faire à ta place et je ne t'imposerai pas une chaîne pour le faire. C'est quelque chose de vraiment important, d'ailleurs, aussi pour notre vie spirituelle, de comprendre cela. L'accompagnateur est là pour éclairer notre intelligence afin que nous posions nos choix. Il ne se substitue pas à notre liberté et à nos choix, mais il peut nous éclairer pour que nous prenions notre décision. L'accompagnateur est là au service de la formation de notre liberté et de l'engagement de notre volonté. Je reprends la lecture. Je repense toujours à cet instant anodin, mais pour moi décisif quand je relis la délicatesse avec laquelle Paul se tient au seuil de la conscience de son ami Philémon. J'écris délicatesse, mais beaucoup y verront de la faiblesse, et une faiblesse criminelle. Certes, c'est très bien de ne pas asséner aux gens des leçons de morale, de ne pas décider à leur place, mais Paul a devant lui quelque chose de bien plus grave qu'un étudiant paresseux ou des bonbons chipés à la boulangerie. Il s'agit d'esclavage, d'asservissement total d'un homme à un autre. Ne pouvait-il pas simplement écrire noir sur blanc, ce qui nous semble l'évidence même, comme chrétien, Philémon ne peut pas posséder d'esclaves. Compte tenu de l'impact considérable qu'ont eu les lettres de Paul, que de souffrances et d'horreurs n'aurait-on pu épargner à l'humanité s'il avait pris la peine d'écrire ces quelques mots? Au lieu de cela, Paul finasse. Alors que j'aurai dans le Christ largement le droit de te dire ce que tu dois faire, je préfère te faire une requête au nom de la charité. Et plus loin, je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce bien, non pas sous la contrainte, mais librement. On l'a connu plus direct et même plus sanguin, mais il y a une chose que Paul ne peut pas faire, forcer une conscience. Vous voyez, là, on a une question très intéressante. C'est que, on a dit, on ne peut pas forcer une conscience, mais quand la question est très grave, question de l'esclavage, par exemple, est-ce qu'on ne peut quand même pas le faire? Est-ce que la gravité de la question ne permet pas qu'on force la conscience, qu'on oblige la volonté, avec une règle, à appliquer, que tu le veuilles ou non? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça, ou même plus, est-ce qu'on ne doit pas faire ça face à la gravité de la question? Saint Paul ne le fait pas, et on peut être déçu qu'il ne le fasse pas. Je reprends la lecture. Notre déception, il est évident qu'elle a aussi traversé l'esprit de Paul. Il sait combien il lui serait facile d'ordonner à Philémon d'affranchir Onésime. Il l'a entendu, cette petite voix qui lui murmure « Allons, c'est pour la bonne cause. La souffrance de l'esclave, il la connaît mieux que nous, sans doute, et il la sait intolérable. » Philémon ne se plaindrait même pas, il l'admire tant. Il est prêt à faire tout ce que Paul lui dira. Lui forcer la main dans cette affaire, ce ne serait pas un grand mal, et il en sortirait un grand bien. Pourtant, à cette voix intérieure qui l'appelle à n'être pas trop regardant sur les moyens quand il s'agit d'arriver à ses fins, Paul ne cède pas. Il se souvient sans doute trop bien de quel pharisaïsme scrupuleux il a été libéré sur le chemin de Damas. Et c'est ce qui motive son refus brutal de toutes les formes d'asservissement à la loi sous lesquelles nous aimons nous réfugier. Quand dans ses lettres il se met en colère, et quelle colère qu'on lise la lettre aux Galates pour en voir un exemple frappant, c'est toujours quand pointe la tentation chez les chrétiens de vivre la relation à Dieu sous une forme de servitude. Quand on invente de nouvelles règles auxquelles on conditionne le salut, il faut être circoncis, il ne faut pas manger ceci ou cela, il ne sait que trop bien combien le peuple hébreu, à peine libéré de l'esclavage d'Égypte, regrette bientôt cette dure condition. Face à l'incertitude du désert, on se souvient que chez Pharaon, la vie n'était peut-être pas drôle, mais on avait au moins l'assurance de manger tous les jours. La servitude, et surtout la servitude intérieure, a ses conforts, il le sait. La liberté, elle, est fragile. C'est pourquoi il convient de la sauvegarder à tout prix. Il est si facile d'oublier que la morale chrétienne ne nous demande qu'une chose, faire ce que nous voulons. Vous voyez, le père Candiat ne nie pas la gravité de la question de l'esclavage, mais il manifeste qu'il y a un grand risque pour la vie chrétienne, c'est celle du retour à la servitude. Alors que lorsque, dans le livre de l'Exode, Dieu se présente au Sinaï, Dieu va justement dire que son nom, c'est « le Dieu qui t'a libéré du pays d'Égypte », il y a une tentation du cœur de l'homme de revenir à la servitude parce que la servitude a un confort. C'est tellement plus simple de ne pas avoir soi-même à discerner, de ne pas avoir à prendre le risque de choisir, de ne pas avoir à assumer le fait de persévérer dans ce qu'on a choisi. Et le père Candiat remarque que les colères de saint Paul sont très fréquemment liées à ce phénomène-là. Lorsque les chrétiens veulent revenir à une servitude, au lieu d'oser vivre la liberté de l'Évangile, la liberté de l'homme nouveau dans le Christ. La morale chrétienne, dit-il, elle ne nous demande qu'une chose, faire ce que nous voulons. Ça, c'est une phrase, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut lire un peu plus loin pour le comprendre. Je reprends la lecture. Et voilà, penserez-vous, voilà qu'on capitule devant l'esprit du temps, le relativisme, l'individualisme et tous les ismes les plus effrayants qui ne sont jamais qu'une manière savante de justifier l'égoïsme. La vie chrétienne, me dira-t-on, ce n'est pas de faire ce que je veux, mais ce que Dieu veut, car faire ce que je veux plutôt que ce que Dieu veut, n'est-ce pas précisément ce que depuis des siècles on appelle le péché? Regardons Adam et Ève, me dira-t-on encore. S'agissant de péché, Adam et Ève, quelle que soit l'interprétation qu'on donne de leur existence historique, c'est tout de même une référence sérieuse. Or l'histoire est très claire, Dieu leur interdit de manger le mystérieux fruit. Ils veulent le manger quand même, ils le mangent, et cette transgression du commandement de Dieu, c'est ce que la Bible a appelé le péché. Comme souvent pourtant, avec les textes que nous pensions bien connaître, la réalité est un peu plus complexe et plus intéressante. Dieu n'a pas dit à Adam et Ève « Je vous interdis de manger ce fruit », mais bien « Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez ». Quelle image de Dieu avons-nous donc dans la tête pour penser aussitôt que ce « vous mourrez » signifie « je vous tuerai » ? Quel Dieu déciderait arbitrairement d'interdire quelque chose de bon, comme cela, pour le plaisir, et punirait de mort la transgression? Ah, certainement pas le Dieu de Jésus-Christ. Croit-on que, quand des parents expliquent à leurs enfants de ne pas mettre les doigts dans la prise au risque de mourir, c'est parce qu'ils comptent les punir de mort? Peut-être faut-il admettre que Dieu, qui se présente avec tant de constance comme un père, comme le père par excellence, préfère lui aussi prévenir que punir. C'est un point très important de l'interprétation de l'Écriture que le père Candiat soulève ici. On pourrait dire la différence entre peine inhérente à l'acte et peine surajoutée. La peine inhérente à un acte, c'est un peu, imaginons, vous mangez des baies de belladone quand vous faisiez une randonnée, eh bien vous êtes pris d'une diarrhée après parce que votre organisme est pas capable de digérer la belladone. C'est une peine qui est inhérente au fait d'avoir mangé la belladone. Mais si vous dites à votre petit-neveu de ne pas manger des confitures, sinon il aura une fessée, eh bien, il mange des confitures derrière votre dos, vous en apercevez, vous lui donnez une fessée, ça c'est une punition surajoutée. On peut manger des confitures sans avoir forcément mal au derrière après. Différence entre peine inhérente au péché ou peine surajoutée. Et le père Candiat souligne là que l'interdiction que l'on imagine est en fait une parole de mise en garde de Dieu contre un fruit qui fait mourir l'homme. C'est pas que Dieu veut faire mourir l'homme s'il touche à ce fruit, c'est que ce fruit, s'il est ingéré par l'homme, le fait mourir. C'est tout à fait différent. Je reprends la lecture. Le Dieu qui interdit quelque chose de bon par caprice ou par méchanceté et qui menace les transgresseurs, la Bible en parle pourtant. C'est exactement le Dieu dont parle le serpent à Adam et Ève. Leur péché, précisément, c'est de le croire. De croire que Dieu est malveillant à leur égard, qu'il souhaite les limiter et les mutiler pour son plaisir, qu'il leur interdit de bonnes choses parce qu'il ne les aime pas. De ne pas comprendre que Dieu les a simplement avertis pour leur bien. Que la vie n'est pas un terrain où ma volonté et la volonté de Dieu s'opposent, et où l'une ne progresse qu'au détriment de l'autre. Je veux goûter le fruit, Dieu ne le veut pas, et dès lors je n'ai d'autre choix que la soumission ou la révolte. La réalité est un peu différente. Je veux vivre, et Dieu veut que je vive. Nous voulons la même chose, le bien, mon bien. Dieu ne m'interdit rien, mais il m'avertit que les moyens que je veux employer parfois sont très mal choisis. Vous voyez, quand nous nous imaginons que Dieu nous interdit quelque chose qui serait bon, en fait, nous adoptons la vision de Dieu façonnée par le serpent. Quand nous avons l'impression que Dieu nous interdit quelque chose qui serait bon pour nous et qu'il le fait arbitrairement, nous avons embrassé la vision du serpent. Dieu n'interdit pas, mais il met en garde contre ceux qui empêchent la vie de l'homme. C'est intéressant à savoir pour recadrer notre vision de Dieu et parfois découvrir comment dans notre cœur cette vision, on pourrait dire diabolique, de Dieu est parfois bien ancrée. Je vous propose que nous en restions là aujourd'hui, en retenant peut-être plus particulièrement les points suivants. C'est une illusion que de croire que le remède à une volonté faible serait la contrainte. Deuxièmement, la morale chrétienne, la volonté de Dieu, est que l'homme engage sa volonté librement. Troisièmement, Dieu n'interdit pas, mais avertit l'homme de ce qui le fait mourir. Et quatrièmement, c'est une vision inspirée par le tentateur que de croire que Dieu nous interdit des choses qui pourraient être bonnes pour nous. La fois prochaine, nous reprendrons en nous interrogeant sur ce qui fait que nous sommes sensibles à la vision que le serpent nous propose de Dieu. Bons échanges, à bientôt.